en ce 19 février. C'est la fête de plusieurs saints, évidemment, mais je ne pense pas pouvoir résister à une tentation très très forte. C'est celle de vous consacrer toute une belle émission à quelqu'un d'extraordinaire. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ce génie, cet homme absolument extraordinaire, exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, vous verrez, a écrit en particulier des sonnets, mais c'est un homme de mille talents, qui est architecte, sculpteur, peintre, etc. Or, dans ces sonnets, je lis ceci, « Daigne, Seigneur, te manifester partout à mes yeux, pour que mon âme, pénétrée de ta lumière divine, étouffe toute ardeur qui te serait étrangère et brûle éternellement dans ton amour. » Ça vaut bien des oraisons de nos messes. C'est superbe, c'est très très beau, très 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 beau. Or, c'est de Michel-Ange qui a écrit de nombreux sonnets religieux. Superbe. Michel-Ange a écrit aussi « Ma vie ne m'appartient plus. Je suis mort à moi-même, je vis pour le péché. J'erre au milieu de ces ténèbres épaisses, frappé d'aveuglement et privé de raison. » C'est la prière d'un pécheur, d'un type qui prit dans des désirs et des tentations, mais on dit qu'il est demeuré chaste toute sa vie, mais il avait des désirs et des tentations, et qu'il l'habitait constamment, étant donné le travail qu'il faisait de sculpter des corps humains. Et il ajoute dans ce magnifique sonnet qui est le 31e, « Sort cruel, cette liberté qui faisait mon bonheur et ma joie, cette liberté est désormais asservie. Quel tourment, ô mon Dieu, quelle affliction pour moi si tu ne me fais revivre en ta miséricorde. Quand je rentre en moi-même, quand j'examine ma vie écoulée au sein de l'erreur, j'accuse mon imprudente audace qui, abandonnant le frein à mes désirs insensés, m'éloigna du sentier si doux qui mène à ton amour. Seigneur, tends aujourd'hui vers moi une main secourable. » Or, qui est ce fameux Michel-Ange? Tout le monde connaît son nom. Tout le monde sait approximativement qui il est. On sait que c'est lui qui a sculpté la fameuse Pietà à Saint-Pierre de Rome. Il se situe dans un moment où tout l'effort du Moyen-Âge, qui était riche de passion et de sagesse, les Anglais l'appellent « Dark Ages », les époques sombres. Mais je crois que si c'était de Dark Ages à ce point-là, quelles sont les autres époques? Car il y a eu des passions spirituelles très fortes au Moyen-Âge, une grande sagesse aussi. Et tout ça, au Moyen-Âge, ça s'était tendu vers une alliance harmonieuse, on peut dire, entre la raison et la foi. Vous savez, il y a des instituts d'études médiévales, il y en a à Montréal, à Toronto, en Europe, etc., où on étudie le Moyen-Âge à fond et d'une façon très intelligente, et c'est riche le Moyen-Âge. Or, au XIIIe siècle, il y avait une espèce d'équilibre politique, social et religieux qui semblait atteint. Il repose cet équilibre sur la conception qu'on se fait d'un homme aussi fort, physiquement que moralement loyal. C'est un équilibre difficile, c'est un équilibre sain. S.I.N. saint, que la Renaissance va compromettre. Hein? Parce que là, on va se retourner vers l'Antiquité. Et ça devient une menace bien séduisante. Hein? Et c'est dans cette espèce de synthèse qui est très admirable, dans l'acte puissant de cette alliance entre les deux mondes, que s'exprime profondément le génie de Michel-Ange. Lui, il a quelque chose encore du Moyen-Âge en lui. C'est celui dont toute la grandeur a été d'accomplir dans la pierre des rêves de beauté. C'est un lundi qu'il est né, le 6 mars 1475. En effet, Michel-Ange est né à Caprese, dans le diocèse d'Arezzo, et son père, Louis Ludovico di Leonardo di Buonarroti, était podestà, c'est-à-dire quoi? Un officier de police. ou un magistrat, oui, de justice, quoi, de cette ville, Caprese. Et sa mère, Francesca di Neri di Miniato del Sera, que des noms longs, hein, est morte quand il n'avait que 6 ans, et Michel-Ange avait 4 frères, lui, Leonardo, plus âgé que lui de 2 ans, Buonarroto, qui était né en 1477, il y avait son fameux frère Giovanni Simone, auquel il a souvent écrit, j'ai dans ma bibliothèque toutes les œuvres de Michel-Ange, toutes ses lettres. C'est pas extrêmement intéressant, les lettres. C'est les sonnets qui sont intéressants, puis d'autres choses aussi à la fin. Et puis, son autre frère, c'est Gismondo, né en 1481. En tous les cas, quand il a eu terminé son office de podesta, là, son père, parce que ça, c'était temporaire, eh bien, son père, à Michel-Ange, là, est revenu à Florence, d'où il était originaire. Et c'est toujours dans la même région, c'est dans le nord-ouest de l'Italie, hein, c'est en Toscane, quoi. La Toscane, ça comprend justement la Florence, Arezzo, là, la ville près d'où il est né, Carrare, d'où il va extraire son marbre pour faire ses sculptures fantastiques. Alors, son père revient à Florence, et comme il possédait à proximité de la ville un domaine héréditaire, il a fait mettre son fils en nourrice. C'est l'occasion, là, d'une première coïncidence. C'est assez extraordinaire, hein, parce que Michel-Ange va voir là une prédestination. Sa nourrice était la femme d'un tailleur de pierre. Et ça l'a marqué dès sa plus tendre enfance. Le bruit du ciseau là, contre la pierre. Hein. L'enfant a été envoyé à l'école de Florence chez un grammairien réputé. Et puis, il s'est pas beaucoup occupé de tout ça. Il s'est occupé surtout de dessin. Hein. Il a négligé tout le reste. Et puis ça a provoqué une scène de famille. Là, le père de Michel-Ange, qui était impulsif et violent, avait une conscience trop vive de ses origines, une espèce de petite noblesse. Alors, il voulait pas laisser son fils se diriger vers le dessin. Ben, cette vocation-là lui semblait pour la famille une humiliation. Et l'idée que son fils pourrait devenir un petit artisan, là, ça lui était totalement insupportable. D'ailleurs, les livres de grammaire de Michel-Ange étaient remplis de dessins, d'ornements, de graffitis. C'était le papier qu'il avait, alors c'était épouvantable, il surchargeait toutes les pages. Et puis, il était vraiment entêté, il était inébranlable. Alors, le père a fini par céder. Il a amené son fils, Michel-Ange, chez Maître Ghirlandaio, qui enseignait conjointement avec son frère. C'étaient les deux frères, Domenico et David. Et puis, il décorait alors les murs de la belle église Santa Maria Novella, à Florence. Michel-Ange avait 13 ans seulement. Hein? Et ainsi, c'est par la seule volonté têtue de notre jeune Michel-Ange, ou plutôt par la seule force d'une vocation dont la puissance brise tous les obstacles. C'est un génie exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Hein? Et Michel-Ange parvient dès l'âge le plus tendre à entrer dans une voie dont aucune force au monde ne pourra l'écarter. Il l'a arraché. Et dès l'âge de 13 ans jusqu'à sa mort, il va mourir très âgé, 89 ans. Mais sa vie, sa pensée, sa force créatrice, tous ses sens seront tendus vers un seul souci sur le plan humain, là, son art, vers un seul idéal, la beauté. Mais jamais, jamais il n'oubliera Dieu, jamais. C'est absolument phénoménal. Il n'arrive pas à négliger celui qu'il aime par-dessus tout, qui est Dieu. D'ailleurs, dans son sonnet 27, il dit « Si mon âme, égarée par un guide infidèle, est déchue de sa dignité première, c'est pour m'apprendre, peut-être, qu'il faut, dans leurs erreurs, plaindre les hommes au lieu de les blâmer. Mais, Seigneur, où trouverais-je un appui si tu me retires le tien? Privé de ton amour, tu t'es l'air, je crains de succomber sous la révolte des sens. » Il termine en disant « C'est à toi seul que j'y recours. Prends pitié de mon repentir, pardonne à mes iniquités. Quand je suis si près de la mort et si loin de toi, ô mon Dieu !» On voit, c'est un grand spirituel. Hein? Les gens ont négligé ça quand on raconte sa vie. Partout où j'ai lu sa vie, on ne parle à peu près jamais de ce profond élan spirituel. Alors, sa personnalité se dessine petit à petit dès son plus jeune âge. Et si la violence de sa vocation explique à elle seule que Michel-Ange ait pu, à peine sorti de l'enfance, de trouver la voie de son génie, seule, on peut dire, une chance exceptionnelle, un bonheur exceptionnel, explique qu'à 15 ans seulement, l'adolescent se voit offrir l'hospitalité d'un prince, et pas n'importe quel. Hein. Michel-Ange a été logé dans le palais des Médicis, la plus grande famille princière. Il a reçu un beau manteau violet, et Laurent de Médicis l'admet même à sa table, imaginez, voulant qu'en toute chose, il soit traité comme l'un de ses fils. Et à 16 ans, Michel-Ange n'avait plus à songer aux besoins de l'existence matérielle. Il était déjà riche. Il vivait dans une demeure ornée des objets les plus précieux et les plus rares, où les statues antiques et les plus riches bibliothèques voisinaient, avec une collection sans pareil de camées. Vous connaissez ça, des camées, hein? Des médailles, des pierres fines. Et chaque jour, ben, il voyait puis il entendait à la table de ce prince extrêmement cultivé et raffiné des personnages les plus distingués de Florence, les savants, les poètes, les écrivains renommés de l'Italie. Donc, aucun traversait Florence sans aller faire sa cour, évidemment, aux Médicis. Et Michel-Ange entreprend un bas-relief un jour. C'est sa première œuvre. C'est un combat de centaures. Des centaures, vous savez ce que c'est, des hommes avec un corps d'animal. C'est une masse vigoureuse et compliquée de corps nus qui luttent. Or, il connaît le prieur de Santo Spirito, un couvent très important, qui, au-dessus des préjugés de son temps, lui a procuré une chambre, où il fait porter secrètement des corps morts, tirés de l'hôpital contigu au prieuré. Alors, c'est à cette circonstance que l'on doit la perfection anatomique qui demeure le caractère essentiel du génie de Michel-Ange. Pensez-y, c'est grâce à un moine, c'est formidable. Il scrute, il examine le jeu de tous les muscles, il observe toutes les perspectives les plus diverses, les plus originales, puis il acquiert là, Michel-Ange, la connaissance technique qui va soutenir toujours, lorsqu'il l'aura parfaitement assimilé, qui va soutenir l'exécution de ses œuvres les plus hautes. Mais cependant, il y arrive un drame. Il devient orgueilleux. Si l'œil de Michel-Ange, sa sensibilité, son épris de beauté, s'il travaille à réaliser l'idéal qui est en lui, son esprit, lui, s'enivre à la joie de découvrir son propre génie. Danger des jeunes gens, de ne pas se rendre compte que vraiment tout ça vient de Dieu. Rien que de ce qu'on a n'est dû à nous-mêmes. Notre intelligence, nos yeux, nos membres, même le cœur qui bat dans notre poitrine, tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui fait tout ça. On ne fait pas ça. Mais pauvre lui, il a oublié. Alors cette joie ne va pas sans égoïsme, sans orgueil, sans mépris. Il méprise les autres. Alors c'est un dénommé Torrigiano lui-même, qui comptait aussi à l'époque parmi les écoliers de l'atelier de Bertoldo où il travaillait, qui nous a laissé le récit du drame, je vous le lis. Nous allions ensemble à l'église pour travailler dans la chapelle de Masaccio. Lui, Michel-Ange, se moquait des uns et des autres. Et un jour, il s'en est pris à moi, et cela m'a hérité plus que d'ordinaire. Alors je fermai le poing, et je l'abattis sur son nez avec une telle violence que je sentis les os et les cartilages s'écraser comme de la gélatine, quoi. Il l'avait marqué pour sa vie entière. Alors, Torrigiano a dû s'enfuir, il fut banni de Florence. Et Michel-Ange, lui, n'est pas parvenu tout d'abord à comprendre qu'il était à jamais défiguré. Il était devenu très laid. Lorsqu'il en a dans un éclair d'imagination, l'intuition certaine, il est broyé par la douleur. Mais c'est à partir de ce moment que ce pauvre Michel-Ange, peu à peu, voit se développer en lui le goût de la solitude, la peur, le dédain des hommes, mais aussi l'amour de Dieu. Alors Florence, à ce moment-là, retentissait, n'est-ce pas, des prédications de Savonarole. Vous connaissez, j'espère, Savonarole, qui était né en 1452, qui est mort en 1498, n'a pas vécu bien longtemps. Hein. C'était un dominicain qui soulevait le peuple contre les Médicis, qui étaient très très riches et qui abusaient de taxes. Et il a tenté d'instaurer, Savonarole, ce moine dominicain, un gouvernement démocratique et aussi théocratique, où Dieu serait très important. Mais il est excommunié par l'Église catholique et brûlé comme hérétique. Et un jour, je vous parlerai de Savonarole, pour lequel, en dépit de ses excès relatifs, pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'estime. Car c'était un homme profondément sincère, et c'est un des drames de l'histoire de l'Église d'avoir brûlé cet homme. Michel-Ange était de ses auditeurs. Or, il se laissait entraîner un peu par Savonarole. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à penser que la beauté du corps devenait une chimère, parce qu'il était attiré par certains jeunes gens. C'était pour lui, finalement, peut-être une illusion dangereuse. Et le culte de l'Antiquité serait peut-être inconciliable avec l'amour de Dieu pour Michel-Ange. Mais à la table de Lorenzo de Medicis, on s'entretient de ces problèmes-là, on discute, et le jeune sculpteur de 17 ans, Michel-Ange, est trop violemment poussé par sa vocation, qui lui semble venir de Dieu, finalement, pour renoncer à la sculpture. Puis il est trop profondément religieux pour étouffer totalement en lui les doutes qui l'assaillent. Il cherche à réaliser dans la pierre un équilibre dont son esprit ne conçoit pas tout à fait la vraie doctrine. Il ne sait pas. C'est qu'à travers la pierre, il va amener les gens à aimer Jésus, à aimer les saints, à aimer Marie, à se jeter dans les bras de Dieu finalement. Et c'est dans la pierre, n'est pas douteux qu'à ce moment-là, se réunissent, étant donné l'époque, une forme de paganisme avec les éléments religieux. Comme il achevait son fameux bas-relief des centaures dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a eu le malheur de perdre son bienfaiteur Lorenzo de Médicis, Laurent le Magnifique, comme on l'appelait. Alors accablé de douleur, Michel-Ange se retire chez son père. Il va y demeurer de nombreux jours sans travailler, puis finalement il se rend à Bologne, qui est une ville intellectuelle par excellence. Il reprend son ciseau, puis il ébauche dans la pierre, il modèle peu à peu un Cupidon endormi. Alors on lui dit, c'est tellement beau que si tu le salissais ce morceau-là, de marbre, là, de façon à lui donner l'air d'une statue qu'on vient de déterrer, qu'on vient de trouver, il dit, on pourrait l'envoyer à Rome, puis elle passerait pour antique, puis elle serait vendue beaucoup plus cher, et tu aurais un peu d'argent, toi qui en manques maintenant. Alors ainsi fut fait, et Michel-Ange, qui résistait pas au désir surtout d'être égalé dans l'anonymat au grand maître de l'Antiquité grecque, alors il y a un marchand qui a vendu la statue à Rome, au cardinal Saint-Georges, et puis le marchand a reçu 200 ducats. Il n'en a remis que 30 à Michel-Ange, c'est pas très chic, hein. Mais l'affaire a été éventée, là, le cardinal Saint-Georges a envoyé un gentilhomme à Florence. Celui-ci a convoqué les deux sculpteurs avec leur œuvre. Écoutez bien ça, c'est une histoire très surprenante. Il les appelait à Rome. Michel-Ange n'apporte rien à Rome, mais il dessine devant le cardinal d'une main un trait si exact, si vivant, d'un relief si parfait, que tout le monde en demeure émerveillé. Alors interrogé, Michel-Ange énumère ses œuvres sans omettre le Cupidon. Et c'est ainsi qu'à 21 ans, Michel-Ange est accepté par le prince de l'Église, le cardinal de Saint-Georges. Et bientôt, Michel-Ange quitte ce cardinal pour un meilleur protecteur, Jacopo Galli, un banquier qui lui commandait un Bacchus et un Cupidon. Et deux années après, à 23 ans, Michel-Ange était choisi, pas pour rien. C'est fantastique, à 23 ans. On lui demande, le pape lui demande d'exécuter une commande incroyable qui lui promet la gloire et la richesse, c'est la fameuse Pietà, peut-être la plus belle statue de toute l'histoire de l'humanité, pour Saint-Pierre de Rome. Et par contrat, il s'était engagé à faire une œuvre que, c'est dans le contrat, c'est écrit, « Nul artiste vivant ne pourrait surpasser. » En tout cas, il est indiscutable que cette œuvre est très belle. Vous la connaissez tous, j'imagine, le Christ est amaigri et décharné, puis dans l'abandon de la mort, il est descendu de la croix, on l'a descendu de la croix, il repose sur les genoux de sa mère, qui, de son bras droit, hein, soutient les épaules. Cependant que le bras gauche là, se fixe en un geste d'accablement et d'offrande. Hein. On a parfois critiqué une disposition, une disproportion plutôt un peu surprenante là, de dimension entre la figure du Christ et celle de la Sainte Vierge. On a signalé aussi comme une légère faute que le corps du Christ est d'une trop grande exactitude anatomique. Mais voyons donc, moi je suis pas contre. Et on disait que les os revêtus de muscles, les veines, les tendons, les jointures des bras, les attaches des jambes sont fouillés jusqu'à une vérité palpable. Et ça, ça fatiguait certaines personnes. C'est l'effet de la Renaissance, hein, mais il en demeure pas moins que c'est là la première œuvre de Michel-Ange où son génie semble trouver le chemin de son équilibre. Hein. Ce que Dieu dépose dans l'homme est absolument phénoménal des fois, ce génie que Dieu dépose. Les ressources de l'art païen dans cette statue, ils sont au service, on le voit bien, c'est clair, au service de l'édification religieuse. Hein. Moi, je dirais que c'est même au service de la contemplation et de l'amour, l'amour du chrétien pour Jésus et pour Marie. Et parmi les spectateurs accourus autour de la Pietà, beaucoup s'étonnaient de la rayonnante jeunesse qui, malgré la douleur, imprégnait le visage pur et beau de la Sainte Vierge. Alors, elle semblait plus jeune que son fils. Alors, savez-vous ce que Michel-Ange a répondu? C'est fantastique. Il dit, « Mais ne sais-tu pas que les femmes chastes se conservent beaucoup plus fraîches que celles qui ne sont pas chastes? » Combien plus, ajoute Michel-Ange, par conséquent, une Vierge, dans laquelle jamais n'a pris place le moindre désir immodeste qui ait troublé son corps? Je veux te dire plus encore, je crois qu'une telle fraîcheur et fleur de jeunesse, si elle l'a reçue d'une façon naturelle, lui a été conservée d'une façon naturelle, afin que la virginité et la pureté éternelle de la Mère de Dieu fussent démontrées au monde. Et Michel-Ange ajoute, un tel miracle n'était pas nécessaire pour le Fils, au contraire, car il devait être montré que le Fils de Dieu s'était incarné dans l'homme et qu'il avait subi tout ce que subissent les hommes, sauf le péché. Il n'était pas nécessaire de faire disparaître l'humain derrière le divin, mais il fallait plutôt laisser l'humain suivre son cours de telle sorte qu'il parut avoir l'âge qu'il avait réellement. Alors, mon cher, ne t'étonne donc pas si pour de telles raisons j'ai représenté la très sainte Vierge, Mère de Dieu, beaucoup plus jeune que son âge ne le réclame, et si j'ai laissé son âge au Fils. Saviez-vous que la Pietà est la seule œuvre que Michel-Ange ait signée? On raconte en effet qu'un jour, en entrant à Saint-Pierre, il a vu un grand nombre d'étrangers qui regardaient son groupe avec admiration, et l'un d'eux, ayant demandé le nom de l'auteur, un autre a répondu, « C'est notre Gobbo de Milan, l'auteur. » Alors, Michel-Ange s'est tu, et le soir même, il est venu graver son nom sur la ceinture de la Sainte Vierge. Michel-Ange avait mis 2 ans à faire la Pietà. Et on peut trouver dans « Les voies du silence » d'André Malraux, à la page 222, une réflexion très intéressante sur ces statues de la Vierge. Il dit « Un martyr est un témoignage et non un accident. » Alors, si l'angoisse de Médée, vous savez, ce personnage très ancien, la douleur de Niobé, aussi un autre personnage mythologique, ne concerne qu'elle, la douleur de la Vierge concerne tous les hommes. Le christianisme n'a pas inventé la scène, le spectacle, mais il a inventé d'y engager le spectateur. Et c'est ça l'art chrétien. Engager ceux qui regardent à développer un amour et des prises de position plus profondes. Alors, depuis plusieurs dizaines d'années, il y avait un immense bloc de marbre qui dormait dans les chantiers du dôme de Sienne, la cathédrale de Sienne. Ce bloc était d'une très grande dimension. Et c'est de ce bloc que notre ami Michel-Ange va faire le fameux David géant, autour duquel la curiosité est d'autant plus aiguisée que le sculpteur le plus obstiné avait caché son travail, ce fameux David. Et Michel-Ange, génie impétueux, exigeant dans ses entreprises, eh bien, qui était défiguré, puis misanthrope, ben, il s'est formé dans la société la plus raffinée de son temps. Et son goût de la beauté s'est façonné au fur et à mesure. Hein. Et c'est ainsi qu'il est devenu l'un des plus grands artistes qui sera apprécié par les papes. On verra ça tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons rencontrer le pape Jules II, qui succède à Alexandre VI. C'est une époque tragique, je vous en ai un peu parlé vendredi en parlant de Martin Luther. Hein. Alexandre VI était loin d'être un pape intéressant, mais quand même, il a fait de choses très positives pour l'Église. Il faut lire quand même Cette époque, faut comprendre, faire la part des choses. Et la même chose avec Jules II, ce pape guerrier. C'était Jules II, un esprit dominateur, hein, qui était élu pape en 1503, à la mort d'Alexandre VI. C'était un pape énergique aussi. Et il a résolu d'attacher à la grandeur de l'Église, qu'il voyait, lui, à sa façon, la grandeur de l'Église. Nous, on la voit chez les pauvres, on la voit dans l'humilité, de plus en plus, l'Évangile jaillit de plus en plus dans les prédications, et c'est ce que aurait prêché Savonarole à l'époque, mais les gens n'ont pas tellement compris toujours. Hein. Alors, il voulait attacher à la grandeur de l'Église la renommée grandissante de Michel-Ange. Il l'a fait venir à Rome au commencement de l'année 1505. Et après quelques hésitations sur la nature du travail qu'il lui demanderait, s'est résolu à lui commander son propre tombeau. Imaginez un pape qui commande son propre tombeau. Quelle folie, hein? Michel-Ange lui soumet bientôt un dessin magnifique représentant un monument qui devait avoir, écoutez bien ça, 10,5 mètres sur 7 mètres. Invraisemblable. C'est saut. Couvert de statues, de dizaines de statues, en particulier 8 figures colossales, 32 moindres, mais plus grandes que nature, etc., etc., etc. En tous les cas, je ne veux pas vous faire la description de ça, ça me choque, ça me... mais ça n'a pas été fait, heureusement. Hein. Il y a des parties qui ont été faites. Alors, le pape Jules II lui demande qu'est-ce que cela coûtera. 100 000 écus, répondit Michel-Ange, qui comptait large pour éviter les surprises. Et le pape, au lieu de diminuer le prix, l'a doublé, disons 200 000, tellement il admirait Michel-Ange. Alors, c'était pas un si mauvais pape, dans un sens. Mais disons qu'il gaspillait l'argent de l'Église. Et alors, Bramante, le fameux architecte du pape, qui avait sur l'esprit du pape, son maître, beaucoup d'empire, là, beaucoup de pouvoir, c'était un homme de plaisir et d'argent, Bramante, c'était pas comme Michel-Ange, hein. Il a pas tardé à jalouser Michel-Ange, qui était un homme austère, qui était d'une probité scrupuleuse. C'est un excellent chrétien, Michel-Ange. Oh, je dis pas qu'il n'a pas été un pécheur, mais c'était un excellent chrétien. Alors, Bramante savait bien que Michel-Ange s'était aperçu de ses tractations, de ses façons d'utiliser de mauvais matériaux en les faisant payer le prix des bons, hein. Souvenons-nous du stade olympique. C'est pas d'aujourd'hui que la malhonnêteté chez les architectes ou les contracteurs ou tous ces gens-là s'exerce. Alors, Bramante décide de ruiner le crédit de Michel-Ange dans l'esprit du pape. Cet architecte qui était cher au pape a fait changer de dessin au pape. Il lui a rappelé la superstition populaire selon laquelle il est de mauvais présage de faire son tombeau de son vivant. Puis il lui a raconté toutes sortes d'histoires et de superstitions de ce genre. Et Bramante a réussi, alors le tombeau n'a pas été construit. En janvier 1506, Jules II, l'année suivante, donc, lui confie la reconstruction de quoi? De Saint-Pierre de Rome, à laquelle il a porté depuis lors toute son attention. Mais cette même année, Michel-Ange se dispute avec Jules II. Il quitte Rome pour Florence. C'était impulsif, Michel-Ange. Les génies sont souvent impulsifs. Et Jules II, donc, se rend à Bologne pour le ramener, son Michel-Ange. Et voyant que le pape tient à ce point à lui, il accepte de le rencontrer à Bologne. Et puis, les deux biographes, là, Vasari et Condivi, biographe de Michel-Ange, ont laissé deux récits identiques sur cette entrevue entre eux, le pape et Michel-Ange. Condivi, toutefois, semble plus détaillé. Voici le texte. Il se rendait à San Petronio pour entendre la messe. Il parle de Michel-Ange, qui allait à la messe presque tous les jours. Hein. Lorsque les palefreniers du pape, l'ayant reconnu, le conduisirent devant sa sainteté qui était à ce moment à table. Jules II le reçut avec un visage sombre. Tu devais venir à nous, lui dit. Jusqu'à tout récemment, vous savez, les papes disaient toujours nous en parlant d'eux-mêmes. Enfin, heureusement, c'est passé. Et alors, Michel-Ange tombe à genoux. Il demande pardon à voix haute. Il dit
qui l'avait erré par dépit, non par méchanceté. C'est vrai qu'il n'était pas méchant, Michel-Ange. Puis il n'avait pu supporter l'affront d'être chassé comme il l'avait été sous l'impulsion de Bramante. Alors le pape, la tête basse, paraissait tout ému. Il n'a rien répondu. Il a fait approcher Michel-Ange, puis il lui a pardonné. Il lui enjoint ensuite de rester à Bologne, là, de ne pas retourner à Florence, jusqu'à nouvel ordre. Et quelques jours après, il l'a envoyé chercher, puis il lui a dit, « Je veux que tu fasses de moi une grande statue de bronze, pauvre pape, et qu'elle soit placée devant l'église de San Petronio. » Puis, il lui a fait remettre 1000 ducats. Ensuite, il est parti pour Rome. Quel étrange pape. Michel-Ange a mis 2 ans à réaliser la statue, puis il a regagné Rome, espérant se remettre à l'exécution du fameux tombeau, mais Jules II n'avait pas cessé d'avoir peur de ce tombeau. Peur savamment entretenue d'ailleurs par Bramante. Et sous l'influence de Bramante, une idée nouvelle se fait jour, bientôt définitivement adoptée par le pape. La voûte de la plus grande chapelle du Vatican, la chapelle Sixtine, construite par Sixte IV, est restée grise, il n'y avait pas de décoration. Alors n'est-ce pas là le grand œuvre immortel qui convient au génie de Michel-Ange? Alors le pape en est convaincu. Peut-être ne voit-il pas qu'en le conseillant ainsi, Raphaël et Bramante rendent ce service à Michel-Ange par méchanceté. Parce que Raphaël n'était pas toujours facile, lui non plus, hein? Alors, ils sont sûrs, tous les deux, Raphaël et Bramante, que Michel-Ange, sculpteur, seulement sculpteur, n'acceptera pas. Il va se brouiller, cette fois définitivement, avec le pape, ou bien il va accepter, se montrera très inférieur à Raphaël, qui avait déjà peint des murs dans le Vatican, des plafonds. Alors, jamais peintre ne disposa d'un tel espace. C'est immense, la chapelle Sixtine, hein? Et là, le pape croit le tenter. Mais Michel-Ange lui dit, « Je ne suis pas peintre. Je ne sais pas peindre, ou presque. » Il dit, « Demandez donc ça à Raphaël, plutôt. » Alors, Jules II a appris à connaître l'homme. Il se charge de vouloir commander, il persuade. Alors là, on traite, ils discutent tous les deux. Et puis, le pape saisit bien vite que ça sera pas facile. Mais Michel-Ange, finalement, se rend à la chapelle Sixtine. Il pense à tout ce qu'on pourrait dire sur cette immense voûte. Il cède enfin, puis 3 mois après l'installation à Bologne de la statue du pape, là, immense, il entreprend ce nouveau travail. Et le voilà, comme il en a maintenant l'habitude farouche, il s'enferme dans la chapelle. Le pape est le seul spectateur qu'il ne puisse éviter. Alors, quand aurez-vous fini? Puis, Michel-Ange dit, quand je serai satisfait de mon travail. Et puis, finalement, bien... Ils se disputent plus ou moins, mais ça va. La colère, parfois, fait fâcher Jules II. Mais Michel-Ange, très vite, déclare qu'il ne reviendra pas. Il s'enfuit, finalement. Le pape, alors, lui dépêche un camérier qui lui porte 500 écus et l'invite à comprendre que son impatience est affectueuse. Enfin, au bout de 4 ans, 1512... Entre d'inextricables histoires d'argent puis de famille, là, parce qu'il y a sa famille dont il s'occupe, ses frères, c'est ce qu'on dit pas toujours bien, puis ses neveux. Alors, dans une lettre, il rédige un communiqué laconique, il dit « J'ai terminé les fresques de la chapelle que je devais peindre. » Le pape est très content. Et là, en tableaux successifs sur le plafond, le peintre avait inscrit pour les yeux les images de la Genèse, hein, du premier livre de la Bible. Avec quelle puissance et quel équilibre, mais aussi avec quelle foi, la foi fantastique de Michel-Ange. Ce n'est pas seulement le sentiment païen de la nature qu'expriment ces scènes. Regardez-les bien avec votre foi et vous verrez comme c'est grandiose. C'est toute la richesse de vie du paganisme, mais pure de toute sensualité, qui se transforme en gloire de Dieu. C'est ça, la chapelle Sixtine. Alors, le 1er novembre 1512, le pape pouvait enfin tenir chapelle dans la Sixtine. Et c'est là qu'on élit les papes. C'est là que se déroule ce mystère étonnant de la succession de Saint-Pierre, qui forme l'unité de cette grande église catholique autour du pape, vicaire ou bras droit du Christ sur la terre. Hein. Tu es Pierre et sur cette pierre... Je bâtirai mon église et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Moins de 4 mois plus tard, le 21 février 1513, Jules II mourait. Il y a 483 ans. Dieu est l'âme de ce pape, qui a fait de bonnes choses aussi. Dieu lui pardonne. Les années qui suivirent ont été moins agitées. Le nouveau pape, Léon X, un Médicis, donc, que Michel-Ange a connu jeune chez Laurent de Médicis, se montre moins exigeant. Notre sculpteur, Michel-Ange, va pouvoir édifier en paix le tombeau de Jules II. Le nouveau contrat avec les héritiers modifie le plan encore. Et l'artiste a 7 ans pour achever son œuvre et touche chaque mois une forte rente. Et pendant 3 ans, il crée 3 figures finalement pour le tombeau. Le fameux Moïse, le Moïse colossal que tout le monde connaît. Hein. Et aussi 2 esclaves qui sont au Louvre, si je ne m'abuse. Plus parfait encore, s'il est possible, parce que de ligne plus sobre. Mais Léon X meurt. Son cousin, le jeune Jules de Médicis, lui succède sous le nom de Clément VII. Et au lieu de la magnifique façade, ce sont des tableaux qu'il veut édifier dans San Lorenzo. D'abord, il est question de 4 dressés au mur de la chapelle, puis de 4 insérés dans le mur, puis de 6. Et finalement, on convient de n'en faire que 2, parce que ça n'a plus de sens pour les 2 ducs. Et Michel-Ange a travaillé pendant 10 ans aux 7 personnages des 2 tombeaux. Il est vraiment... pas très bien traité. Et Michel-Ange, une fois encore, caressait l'espoir de se remettre au fameux tombeau de Jules II, mais le pape exigeait maintenant qu'il peigne sur la muraille du fond dans la chapelle Sixtine le fameux jugement dernier. Vous savez que tout ça vient d'être nettoyé grâce à des crédits offerts par un peuple absolument pas catholique, ni chrétien, le peuple japonais. Mais oui. Qui ont obtenu le droit, après le nettoyage extraordinaire où toutes les couleurs sont revenues, d'en tirer des films et des études qui sont montrées à travers le monde. Alors donc, le peintre Michel-Ange préparait ses cartons en secret, travaillait aux statues du tombeau. Tombeau de Jules II. Et lorsqu'en 1534, l'année de la découverte du Canada, Paul III, ayant succédé à Clément VII, Michel-Ange se crut enfin libre de s'y consacrer exclusivement, puis il a eu la surprise de se voir demander par le nouveau pape, qui lui a déclaré qu'il voulait avoir tout son temps. Alors, il lui demandait toutes sortes de choses, et comme Michel-Ange invoquait son contrat avec les héritiers de Jules II, Paul III s'est emporté, puis il a dit « Qu'est-ce à dire? Voilà 30 ans que je nourris ce désir, et aujourd'hui que je suis pape, lui, un peu prétentieux encore, je ne pourrai le satisfaire. Où est-il ce contrat? Que je le déchire, son contrat avec Jules II. Et à nouveau, les termes du contrat doivent être modifiés. Ah, c'était une vie difficile, rebelle, ingrate, pénible, avec des hommes bien orgueilleux qui étaient ses papes à l'époque, mais qui n'étaient pas nécessairement de mauvais papes. Hein. Retenons bien, quand on lit l'histoire des papes, en particulier de Ludwig Pasteur, un historien luthérien, que cet historien luthérien qui voulait presque abattre la papauté en montrant combien ses papes étaient abominables, s'est converti avant la fin de son ouvrage et s'est fait enterrer dans une basilique catholique, reconnaissant que même dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église, l'Esprit Saint est toujours là qui veille. « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », a dit Jésus à son Église. Et si pendant plusieurs dizaines d'années, mais cet homme ne poursuit d'autre idéal que l'art, d'autres buts que son œuvre, si Michel-Ange enfin est apparu, jusqu'ici comme le génie de la solitude, voilà que soudain son cœur, son âme elle-même vont s'ouvrir, et qu'à l'âge où l'existence est plus nombreuse et près de s'achever, mais lui, la sienne, va se trouver entièrement, merveilleusement renouvelée. Lui, qui avait toujours été attiré plutôt par des jeunes gens, se voit attiré tout à coup par Vittoria Colonna. Il a 60 ans, c'est en 1535. Elle a 43 ans. L'intimité de leurs esprits n'a commencé d'ailleurs que 3 années plus tard. Elle était fille d'une très très noble famille napolitaine, les Colonna. Elle avait été fiancée à 4 ans. Elle est devenue à 17 ans, par son mariage, marquise de Pescara. Son mari l'avait fait souffrir, mais elle l'avait aimé quand même. Et seule avec ses rêves irréalisée puis irréalisable. Elle s'est mise à composer des poésies. Elle est devenue l'une des grandes poétesses italiennes. Elle écrit « Avec un doux espoir, je vivais des jours amers ». Mais lorsque son mari a été tué dans un combat, elle a écrit de nombreux sonnets quand même à la louange de son mari. Et plus tard, elle s'est consacrée à la religion, elle était profondément religieuse. Cherchant toujours dans l'art, dans la science, dans l'amour de Dieu, une compensation à cet amour terrestre que les événements lui avaient refusé. Mais cependant, elle était grandement honorée, célèbre dans toute l'Italie, visitée dans son palais par l'empereur, oui, reçue par les plus grands égards, avec les plus grands égards par le pape. C'était pas n'importe qui. Hein. Sa liaison avec cette poétesse célèbre, Victoria Colonna, l'a encouragée. Et il a écrit lui-même des sonnets, et aussi des épigrammes, des épitaphes, des madrigaux, des stanzes et des canzoni, surtout des sonnets. Ses compositions comptent parmi les plus belles de la littérature italienne, par la langue nette et colorée, par le style qui est véritablement lapidaire, hein. C'est quelque chose de remarquable que tout ce qu'il a écrit, il a écrit en particulier des poèmes à cette femme. Mais Victoria Colonna était encore plus religieuse que Michel-Ange. Et si Michel-Ange était épris d'elle, eh bien, ça n'a pas pu se faire. En 1544, Victoria s'est retirée à Rome. Elle est entrée au cloître, à Santa Anna. Elle va y demeurer jusqu'à sa mort, cette femme d'une très grande richesse. Elle est morte le 25 février, donc c'est dans quelques jours l'anniversaire, en 1547, il y a près de 450 ans. Ce fut peut-être la plus profonde douleur de Michel-Ange. Il en est resté pour longtemps comme stupide et ayant perdu le sens, nous dit son historien Condivi, son biographe. Mais son amie, Victoria Colonna, avait transfiguré sa foi. Ce n'était plus désormais une religion de penseurs et d'artistes qui l'habitait. C'était une religion d'homme mûr, qui au centre même de son âme découvre Dieu. Je peux vous lire d'ailleurs un très beau sonnet qu'il a écrit à cette occasion et qui est magnifique. Lorsque par l'ordre du ciel, la mort ravit au monde celle pour qui j'ai tant soupiré, ceux qui l'avaient connue versèrent des larmes. La nature, dont elle était le plus bel ouvrage, parut dans la consternation. Ô destinée contraire à mon amour, espérance trompeuse, ô esprit pur, dégagé de tout lien, où es-tu maintenant? La terre recouvre ton beau corps, et le ciel a reçu ton essence divine. En vain la mort cruelle, inattendue, crut pouvoir éteindre avec toi jusqu'au renom de tes vertus. Le fleuve d'oubli n'engloutira point ta mémoire. Privé de toi, le monde possède encore 1000 écrits qui t'immortalisent, et ses regrets s'adoucissent en pensant que tu quittas cette terre pour aller habiter les cieux. Mais cependant, il avait, depuis 3 ans déjà, terminé le jugement dernier, l'immense fresque divisée en 11 groupes et dominée par la personnalité éclatante d'un Jésus énorme qui lève la main, c'est un Jésus justicier, hein, qui lève la main en signe de menace. Cependant que l'épouvante saisit les justes eux-mêmes et que les réprouvés sont livrés à la lumière des anges rebelles. On est loin d'une spiritualité proprement évangélique, mais quand même, c'est magnifique. Et le 1er janvier 1547, Michel-Ange, peintre, sculpteur et architecte du Vatican, recevait en outre le titre d'architecte de Saint-Pierre de Rome, fonction dans laquelle il succédait à Antonio di San Gallo. Et le bref qu'il instituait lui donnait le droit de faire des hauts plans de l'édifice telles modifications qu'il jugerait convenables. Et bien qu'il n'a eu jamais, ce qu'on peut dire, l'éducation d'un architecte, il n'avait jamais été formé, mais Michel-Ange allait, une fois encore, malgré son grand âge, se montrer égal à son génie. Il se trouvait devant un travail déjà avancé, mais où beaucoup d'argent et d'efforts avaient été perdus, et en 15 jours, il a construit un modèle qui a coûté 25 écus seulement, alors que le modèle de l'architecte San Gallo, son prédécesseur, en avait coûté 1000. Imaginez 25 au lieu de 1000. Puis celui de San Gallo avait coûté des années de travail. Le pape Paul III est mort le 10 novembre 1549 et ce fut Jules III qui lui a succédé. Et aussitôt, les adeptes de San Gallo, cet ancien architecte, ont noué un réseau serré d'intrigues. Alors Jules III s'est laissé convaincre. Il a réuni une assemblée dont l'historien Vasari nous a laissé le récit. « On prétend que l'Église sera sombre, dit le pape. Je voudrais entendre ceux qui parlent ainsi, répondit Michel-Ange. » Et le cardinal Marcel a répondu, « C'est moi. » Et l'architecte Michel-Ange a répondu, « Vous ignorez que sur les fenêtres de la voûte dont vous parlez, on en doit percer 3 autres. » Ah, l'autre dit, « Vous ne me l'aviez pas dit. » Il dit, « Je ne suis pas et ne vais pas être obligé de dire à votre éminence ni à personne quels sont mes projets. Votre fils est d'avoir de l'argent et de le garantir contre les voleurs. Le mien est de bâtir l'Église. » Et, se tournant vers le pape, il lui dit, « Saint-Père, vous voyez comme je suis récompensé de mes peines. Si elles ne profitent pas au salut de mon âme, je perds ici mon travail et mon temps. » Et le pape lui a répondu, en lui imposant les mains, « Elles ne seront perdues ni pour votre âme, ni pour votre corps. » Et le lendemain, il lui confirmait par un bref écrit en latin le titre d'architecte de Saint-Pierre. Et cependant, Michel-Ange n'avait rien perdu de son art, hein. C'est ici le lieu de rappeler un texte de Blaise de Viquière, témoignage émouvant de la vieillesse de l'artiste. Il dit, « Je puis dire, avoir vu Michel-Ange, bien qu'âgé de plus de 60 ans et encore des plus robustes, abattre plus d'écailles d'un très dur marbre en un quart d'heure que 3 jeunes tailleurs de pierre n'auraient pu faire en 3 ou 4. Chose presque incroyable pour qui ne le verrait. Il y allait d'une telle impétuosité que je pensais que tout l'ouvrage dut s'en aller en pièces, abattant par terre d'un seul coup de gros morceaux de 3 ou 4 doigts d'épaisseur. » Michel-Ange ne devait pas avoir la joie de voir la coupole de Saint-Pierre se dessiner dans le ciel de Rome. Cette coupole que nous reconnaissons tous quand on regarde une vue de Rome, hein, on voit bien que c'est là qu'est le pape, hein, c'est là qu'est le tombeau de Saint-Pierre, hein, c'est là qu'on peut s'assembler par milliers, pour ne pas dire comme j'ai eu l'occasion en 1950, nous étions 1 million, à la fois dans la basilique et devant la basilique jusqu'au Tibre. Il eut du moins la certitude qu'elle serait achevée selon ses plans. Mais entré dans sa 89e année, il souffrait plus que jamais d'une pierre dont il était depuis longtemps affligé, une pierre au foie. Et le pressentiment de sa fin le hantait. En présence de 2 amis et de ses médecins, il a dicté son testament en ces termes très simples, très sobres, très beaux. « Je donne mon âme à Dieu, mon corps à la terre et mes biens à mes plus proches parents. » Il était toujours attaché à sa famille qui n'a pas toujours été bien reconnaissante. Et il pria alors pour ceux qui l'entouraient. Puis il leur a demandé, au moment suprême de sa mort, de lui lire la passion de Jésus dans l'Évangile. Il a expiré. Le 18 février 1564, c'était l'anniversaire hier, à 88 ans, 11 mois et 15 jours, pour ainsi dire 89 ans, hein, il est mort dans la lumière éternelle du Christ. Il est mort très, très, très pieusement en entendant la passion de notre Seigneur. Et on peut dire que cet homme était de Dieu. Que mes prières seraient douces, ô mon Dieu, écrit-il, si elles étaient l'effet de ta grâce divine. Fais que ma voix, douée d'une vive et sublime éloquence, chante incessamment tes louanges, ta grandeur et ta gloire. C'était un grand homme, un grand chrétien, un grand catholique. Soyons fiers, tous les hommes, toutes les femmes, qu'il y ait eu dans l'humanité un Michel-Ange.